Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Urbania, To Go et Coup de pouce. Au programme, hommage à l'époque pas si lointain, des CV en papier. Faire des choix vous paralyse, voici pourquoi. Exfoliation de la peau. Tout ce qu'il faut savoir. Et pourquoi ça coûte aussi cher un tapis. Bonne écoute.
Hommage à l'époque pas si lointaine des CV en papier. Du temps où se trouver une job était encore une activité DIY, do it yourself, et amusante. Un texte de Vincent Descoteaux, paru le 5 avril 2023 dans Urbania. Les jeunes d'aujourd'hui, je sonne déjà comme Jocelyne de Radio Enfer, vont-ils encore porter des CV en format papier? La question se pose, car avec le manque actuel flagrant de main-d'œuvre et le fait qu'Internet soit une très belle invention, ce serait surprenant. À la limite, je les imagine plutôt porter un seul CV dans n'importe quel fast-food pour ensuite se faire répondre « Parfait, tu commences dans 20 minutes et ça ne me dérange pas que tu aies 11 ans. » Sans blague. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où des enfants cuisineraient leur premier junior au poulet avant même de commencer leur puberté. Bref, c'est toute une génération d'ados qui ne connaîtront probablement jamais le rituel très étrange de présenter son CV en format papier. Je vais donc rendre hommage à cette époque révolue où l'on chassait un emploi à pied, à vélo ou lifté par nos mères. L'art d'imprimer un CV avec rien dessus. Le premier truc qu'on nous enseignait en éducation économique, RIP, ce cours qui expliquait les impôts à des ados du secondaire, c'était d'imprimer des CV d'une page seulement, un défi facile à relever quand on n'a aucune expérience de travail. Essentiellement, on se ramassait avec une feuille de papier qui disait qu'on était ponctuel, fiable, honnête et qu'on avait déjà fait du bénévolat. Le dernier point était généralement inventé de toutes pièces et invalidait automatiquement la mention d'honnêteté présente quelques centimètres au-dessus. Un premier CV papier contenait nos coordonnées, la ligne fixe de la maison familiale, nos qualités, être un adolescent, nos expériences pertinentes, souvent une compilation de mensonges, et nos objectifs professionnels dans la compagnie, s'acheter un scooter. Aujourd'hui, je réalise que c'était un peu le premier test pour vérifier notre niveau de rigueur et que ce test, je l'ai échoué plusieurs fois. C'était aussi un moyen de prouver qu'on était assez débrouillard pour trouver une imprimante, qu'on savait écrire sans faute et qu'on était capable de marcher de chez nous jusqu'à un commerce présélectionné sans endommager un document. Tout cela, je l'ai appris à la dure parce que le Vincent du passé faisait énormément de fautes et aimait beaucoup la typographie Comique Sans. N'utilisez pas cette police d'écriture, vous allez devenir une anecdote pour plusieurs personnes. Tous les CV d'ados en papier sont sensiblement identiques, mais pour en avoir reçu plusieurs dans mes premiers emplois, je confirme qu'on les divise en deux piles, celle des CV propres qu'on va considérer et celle des CV dont on va un peu se moquer. L'anticipation d'aller porter son CV dans une job cool. Je n'ai pas les référents modernes, mais dans mon temps, tous les emplois n'étaient pas égaux sur le plan de la convoitise qu'ils inspiraient. On allait porter nos CV partout et on se faisait généralement rappeler par un employeur sur 20. Mais sur les 60 CV qu'on distribuait, il y avait toujours 2 ou 3 commerces dans lesquels on voulait vraiment travailler. Par exemple, le club vidéo. Une autre époque, je vous le rappelle. J'étais tellement nerveux avant d'aller y porter mon CV. C'était le poste que tous les jeunes voulaient avoir. alors que certains devenaient animateurs de camps de vacances en plein soleil de juillet ou encore plongeurs de nuit, je tentais ma chance pour passer mon été à classer des DVD et choisir quel film jouerait dans le commerce. Le tout incluant des provisions infinies de slush et d'air climatisé. Je me préparais donc 45 minutes avant d'y aller. J'avais un CV sur lequel j'avais remplacé « généreux » par « cinéphile » dans la section des qualités. Je ne sais toujours pas à ce jour ce qu'un cinéphile de 15 ans représente, mais ce que je sais, c'est que j'ai eu la job et que c'était une belle victoire de début de vie. La fameuse entrevue. L'entrevue de job qui vient après avoir été rappelée, c'était probablement le moment le plus plaisant du processus. Je pense qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, les employeurs actuels rappellent les gens de façon plus systématique, car l'embauche est nécessaire et pressante. De mon temps, un appel du genre était la confirmation qu'on était intéressant et qu'une connexion humaine s'était faite durant la fameuse poignée de main. C'était ça ou le fait que nos mensonges imprimés sur du papier soient crédibles et grammaticalement adéquats. Dans tous les cas, peu importait la raison du rappel, il restait une victoire. Après ça, il s'agissait de passer un moment dans un bureau trop petit et d'avoir une bonne conversation avec un adulte en position d'autorité pour vérifier si ça allait être plaisant ou, à la limite, supportable d'être sur son payroll. Même quand on ne nous rappelait pas après l'entrevue, on avait quand même le sentiment de s'être rendu en finale de cet étrange concours de CV en papier. Cela nous donnait un petit boost de confiance pour refaire le tour des commerces le prochain après-midi et espérer avoir enfin l'honneur d'être payé au salaire minimum. C'était, hommage à l'époque pas si lointaine des CV en papier, du temps où se trouver une job était encore une activité DIY, do it yourself, et amusante. Un texte de Vincent Descoteaux, paru le 5 avril 2023 dans Urbania. Faire des choix vous paralyse? Voici pourquoi. Un texte de Geneviève Beaulieu-Pelletier paru le 17 mai 2022 dans le magazine To Go. Hésiter. Ne pas savoir quoi choisir. Attendre et attendre encore avant de prendre une décision. Telles sont des manifestations potentielles de l'indécision. La psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier nous aide à voir clair sur les raisons et les conséquences de l'indécision. Trois réactions face à l'indécision. Lorsqu'on fait preuve d'indécision, on peut avoir tendance à réagir de différentes façons. 1. Éviter de choisir. On évite d'avoir à prendre la décision. On procrastine en repoussant à plus tard le moment du choix où on ne choisit tout simplement aucune option. Comme si notre esprit était figé et qu'on ne pouvait se positionner. 2. Accepter toutes les options. Une autre réaction peut être celle de ne refuser aucune option. Difficulté à dire non. De ne pas mettre de limites ou de tenter de satisfaire tous ses besoins. On peut craindre aussi de blesser une autre personne en refusant une option. Alors on accepte pour éviter de se sentir coupable. Accepter toutes les options est aussi une façon utilisée pour se garder les portes constamment ouvertes pour la suite. Et si, comme on ne choisit pas, alors rien n'est fermé, mais en même temps, rien n'est choisi. 3. Se fier à l'opinion d'une autre personne pour choisir. L'indécision peut aussi nous mener à sonder le regard social, c'est-à-dire à rechercher l'approbation des autres. On expose son choix à une autre personne et on tente de savoir ce qu'elle choisirait pour guider son choix. Certaines personnes laissent même l'extérieur déterminer la suite sans avoir eu à prendre une décision. Conséquences de l'indécision. L'indécision amène son lot de conséquences. Ne pas choisir et accepter trop d'options peut mener à une surcharge sur différents plans. À force d'en prendre trop sur nos épaules en ne choisissant pas, on accumule des tâches professionnelles, des responsabilités, des activités, des contraintes d'horaire, des relations. La charge devient trop grande au quotidien et devient une pression. À la longue, on s'épuise physiquement et émotionnellement. Ne pas choisir peut aussi impliquer que l'on nie nos propres besoins. En acceptant des options par pression, pour éviter de blesser une autre personne ou encore par culpabilité, on poursuit des objectifs qui vont à l'encontre de ce qui nous intéresse vraiment et qui ne nourrissent pas nos besoins psychologiques essentiels à notre bien-être. En découle souvent un mal-être et une démotivation. En effet, difficile de garder la motivation quand on n'a pas réellement envie de poursuivre un but. Choisir un deuil à faire. Faire un choix implique de faire un deuil, et même bien souvent des deuils. Dans l'indécision, on se retrouve face à cette angoisse de la perte. On ne veut pas perdre des options, des possibilités, des ouvertures éventuelles. Donc, on ne choisit pas ou on accepte tout. On ne perd donc rien. Choisir, c'est mettre de côté certaines options. On renonce ainsi à réaliser des désirs et à satisfaire les attentes des autres. Renoncer suppose donc inévitablement la perte du ou des choix non retenus. C'est pourquoi on parle de deuil. C'est donc un travail sur le deuil qui doit s'opérer pour sortir de l'indécision. Le deuil peut se jouer sur différents fronts. En voici quatre. Deuil de nos idéaux. On porte tous en soi des idéaux de ce qu'on devrait être et atteindre dans la vie. Des attentes et exigences de perfection, d'équilibre, de force qui sont bien souvent valorisées socialement. Pour faire un travail sur le deuil, il importe de revisiter ces attentes et exigences qui nous influencent dans nos choix et nous maintiennent dans l'indécision. Deuil de ce qui ne sera pas. C'est aussi tout un travail d'assumer que ce qu'on ne choisit pas n'arrivera tout simplement jamais ou le sera seulement un jour. C'est la perte d'une possibilité, de ce qui aurait pu exister. Deuil de ce qu'on avait espéré et attendu. On a attendu souvent très longtemps pour atteindre un objectif, pour satisfaire un besoin ou pour nouer une relation nourrissante avec une personne. On a espéré. Beaucoup. Renoncer est alors difficile. Deuil de la reconnaissance de l'autre. Si en faisant un choix, on a l'impression qu'on va blesser ou décevoir une autre personne, on fait donc face à la perte de l'amour, de la gratitude ou de la reconnaissance qu'on recherchait de cette façon dans son regard, ses gestes, ses paroles. Dans ce travail sur le deuil, il est avant tout important de prendre conscience de nos craintes, de nos idéaux et de déterminer nos besoins pour mieux choisir ce qui nous correspond réellement. Pour comprendre là où les pertes auxquelles on est confronté, on doit se laisser vivre la tristesse et les angoisses que les choix non retenus font émerger. Choisir, ça peut prendre plus ou moins de temps selon ce qui émerge en nous. On y va à notre rythme et sans se juger. On n'a pas à se critiquer d'être figé dans l'indécision. Au contraire, quand on comprend que l'indécision implique un réel défi émotionnel lié au deuil face à la perte, on peut davantage développer un regard bienveillant envers nous-mêmes. Et si on se trompe dans nos choix? On doit relativiser la perte anticipée. Bien souvent dans la réalité, on peut revenir sur nos choix si on se rend compte en chemin que le choix fait n'était pas satisfaisant finalement. On peut alors prendre une nouvelle direction. Dans certains cas, il ne sera réellement plus possible de revenir sur un choix fait. il y a moyen de faire surgir de nouvelles options avec créativité et d'envisager des options auxquelles on n'avait pas réfléchi au départ. On prend ainsi un chemin différent qui nous mène vers une nouvelle direction, mais qu'on peut rendre nourrissant psychologiquement. Il ne reste alors plus qu'à oser nous lancer et voir où cela va nous mener, sans pression, en nous laissant l'opportunité d'apprendre de nos choix et la possibilité de nous ajuster aux besoins. C'était « Faire des choix vous paralyse, voici pourquoi ». Un texte de Geneviève Beaulieu-Pelletier paru le 17 mai 2022 dans le magazine To Go.
Exfoliation de la peau, tout ce qu'il faut savoir. Un texte de Marie-Ève Inoux, paru le 24 août 2022 dans le magazine Coup de pouce. Les tablettes de certains commerces débordent de produits servant à exfolier notre peau. À quel point ce geste est-il nécessaire ou même bénéfique? Qu'est-ce que l'exfoliation et quels sont ses bienfaits? Il s'agit d'un geste beauté qui nous permet de retirer les cellules mortes à la surface de notre peau, bien que l'exfoliation ne soit pas une étape essentielle de la routine de soins. Elle peut se révéler bénéfique dans certains cas. Lorsque faite adéquatement, elle dévoile une nouvelle couche de peau douce, lisse et éclatante, au teint et à la texture particulièrement uniforme. L'exfoliation permet aussi une meilleure pénétration des produits de soins utilisés par la suite. Mais si on l'effectue trop souvent ou trop rapidement, l'exfoliation peut aggraver certaines affections cutanées comme l'acné ou provoquer de l'inflammation, des cicatrices ou même de l'infection. L'important est de rester à l'écoute de notre peau. Quels sont les différents types d'exfoliation? Il y en a deux principaux. L'exfoliation mécanique, parfois appelée physique, et l'exfoliation chimique. L'exfoliation mécanique consiste à retirer les cellules mortes à la surface de notre peau en la massant doucement avec un soin qui contient des granules. Les gommages, les désincrustants et les brosses nettoyantes, entre autres, sont employés dans une exfoliation physique. L'exfoliation chimique se fait en appliquant un soin dont un ou plusieurs ingrédients accélèrent le renouvellement cellulaire et brisent les liens entre les cellules mortes à la surface de la peau, leur permettant de s'éliminer. Parmi les plus communs, il y a les acides comme les AHA, acides alpha-hydroxylés, et les BHA, acides bêta-hydroxylés, ainsi que les enzymes de fruits. Les produits qui en contiennent prennent plusieurs formes, des lotions toniques aux hydratants, en passant par les sérums et les masques. Certains soins offrent à la fois une exfoliation mécanique et chimique. Comment intégrer l'exfoliation à notre rituel beauté? On choisit un exfoliant qui convient à notre type de peau qu'on utilise quelques fois par mois. On augmente ensuite la fréquence peu à peu. On pense aussi à limiter les autres produits au potentiel irritant dans notre routine de soins, comme le rétinol ou la vitamine C concentrée. Si on a la peau normale, sèche ou mixte, on essaie un produit comportant des AHA. Si on a la peau grasse, les BHA sont plus indiqués, car ils sont liposolubles, ils pénètrent l'huile. On peut aussi essayer un gommage ou un soin qui combine l'exfoliation physique et chimique. Si on a la peau sensible, il n'est peut-être pas nécessaire de l'exfolier. Si on y tient, on se tourne vers les PHA, acides polyhydroxylés, ou l'acide lactique ou mandélique, dont les molécules sont plus grosses et pénètrent moins profondément dans la peau, ce qui les rend moins irritants. On peut exfolier notre corps d'une fois par mois à deux fois par semaine. Tout dépend de nos objectifs et de la tolérance de notre peau. Gare à la surexfoliation. Si on remarque des rougeurs, de la sécheresse, une sensation de picotement ou de la desquamation visible sur notre peau, c'est peut-être signe qu'on l'a exfolié de manière trop intense ou trop fréquente. On cesse alors immédiatement et on réduit notre routine de soins à l'essentiel. Un nettoyant doux, un hydratant de base, comme de la gelée de pétrole, et un écran solaire. L'important est de laisser le temps à notre peau de se rétablir, ce qui peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines. Truc de pro. Après avoir exfolié notre peau, on n'oublie pas d'appliquer un hydratant doux ainsi qu'une lotion offrant un FPS 30, car l'exfoliation peut assécher la peau et la rendre plus sensible au soleil. Dr Annie Liu, dermatologue certifié. C'était « Exfoliation de la peau, tout ce qu'il faut savoir », un texte de Marie-Ève Inoux, paru le 24 août 2022 dans le magazine Coup de pouce.
Pourquoi ça coûte aussi cher, un tapis? Un texte de Gabriel Tremblay-Baillargeon, paru le 6 avril 2023 dans Urbania. On vous explique pourquoi ces morceaux de fibres décoratives avoisinent le prix d'un rein. Quand on atteint la fameuse trentaine, on a souvent envie d'investir dans des pièces durables pour la maison et se débarrasser de la table de salle à manger moche qu'on traîne depuis nos appartes de cégep. C'est là que ça se passe. On va s'acheter un beau tapis. Mais peut-être que finalement, en voyant le prix, on n'est plus si motivé que ça à investir dans de belles pièces. Coudon, c'est donc ben cher, un tapis. Juste en magasinant en ligne, on en trouve facilement entre 250 et 1200 $. Sais-tu moi où il me semble que ça reviendrait à beaucoup de sous par fibre? J'ai donc essayé de comprendre si on se fait avoir ou si, vraiment, ça coûte cher de produire un tapis. L'homme versus la machine. Plusieurs facteurs influent sur le prix d'un tapis, mais les principaux sont les suivants. Le matériau utilisé. On peut retrouver des moquettes en fibres synthétiques comme le polyester, les plus abordables, en fibres naturelles comme le coton ou la jute, habituellement dans une gamme de prix moyen, ou encore en matériaux plus nobles comme la laine ou la soie. Habituellement, plus la fibre choisie est de basse qualité, moins la durée de vie de l'objet sera longue. La méthode de fabrication. Les tapis abordables sont généralement fabriqués par des machines en seulement quelques heures, alors que dans le cas de certains tapis faits à la main, la confection peut s'échelonner sur des mois ou même une année entière. Des artisans et artisanes en Iran, au Maroc ou en Turquie, par exemple, tissent des tapis une fibre à la fois, en suivant des techniques ancestrales passées de génération en génération. Dans le même ordre d'idées, quand on magasine un tapis fait à la main, le nombre de nœuds par pied carré va influer sur le prix. Enfin, si le design de votre tapis est plus complexe que, mettons, juste une couleur unie, vous devrez débourser plus cher. Les coûts de production. Désolé de vous l'annoncer, mais si vous payez 150 $ pour un tapis, il y a de bonnes chances qu'il n'ait pas été confectionné par des travailleurs travailleuses qui bossent dans des conditions optimales. En payant un prix élevé pour un tapis tissé à la main, vous vous assurez, mais pas à 100%, faites vos recherches, comme on dit, que les personnes qui l'ont fabriqué ont été payées un prix juste pour toutes les heures travaillées. OK. Mais si je n'ai pas 1500 $ à mettre sur un tapis, je fais quoi? Ça se peut et c'est même fort probable. Histoire d'en avoir plus pour votre argent, il y a quand même quelques astuces à connaître. Évitez le polyester et la viscose. Oui, c'est moins cher et c'est résistant à l'eau. Mais le problème, c'est que ces fibres synthétiques retiennent beaucoup plus la saleté et la poussière que les fibres naturelles. Non seulement ça, mais en plus, une fois incrustée, la saleté y est difficile à déloger. Après seulement 1 ou 2 ans, votre tapis pas cher aura l'air d'avoir vieilli prématurément. Not a good look, comme on dit. Achetez usagé. Mais faites nettoyer avant. Sur des sites comme Etsy ou même sur Marketplace, on peut trouver des tapis de super qualité à une fraction de leur prix d'origine. Un vrai bon tapis peut durer des dizaines d'années, ce qui, au final, est plus économique que d'en acheter un pas cher tous les 3 ans. Superposer. Un petit truc pour économiser, c'est de placer un tapis abordable sous un tapis de meilleure qualité. Comme ça, vous couvrez toute la surface désirée tout en profitant d'un bel objet. C'était « Pourquoi ça coûte aussi cher, un tapis ?» Un texte de Gabriel Tremblay-Baillargeon, paru le 6 avril 2023 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.musevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Aya Jennifer Radeau et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.